Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Art-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié à titre posthume en 1947 et composé par Gustave Thibon à partir des cahiers de Simone Weil, La Pesanteur et la Grassène est ni un traité systématique ni un récit spirituel. C'est un recueil de fragments philosophiques, moraux et mystiques, organisés autour de questions qui traversent toute son œuvre le malheur, le désir, la force, le travail. La beauté, l'amour de Dieu et l'attention au réel. Le titre désigne une opposition décisive. La pesanteur est l'ensemble des mécanismes impersonnels qui ramènent l'être humain à la nécessité, à l'intérêt et à la conservation de soi. La grâce désigne au contraire ce qui permet un décentrement sans pouvoir être produit par la seule volonté. Weil examine ainsi les formes ordinaires de l'illusion morale et les conditions d'une ouverture à ce qui excède le moi. La lecture demande lenteur et confrontation active avec des formulations volontairement condensées. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la pesanteur comme loi de nécessité psychologique et sociale, chez Simone Weil, la pesanteur ne renvoie pas d'abord à une faute individuelle ni à une simple tristesse. Elle désigne la logique presque mécanique par laquelle les êtres réagissent à la privation, à la peur, au désir de reconnaissance et au rapport de force. Lorsqu'une personne est blessée, humiliée ou frustrée, elle tend à transmettre cette atteinte plutôt qu'à l'interrompre. Cette circulation de la violence aide Weil à penser le mal sans le réduire à des intentions exceptionnellement mauvaises. Les conduites les plus destructrices peuvent naître de réflexes ordinaires de compensation, d'imitation et de défense du moi. La nécessité gouverne également la vie collective. Prestige, pouvoir, appartenance et idéologie peuvent absorber le jugement personnel. Weil ne prétend pas que l'intelligence suffise à abolir ces déterminations. Elle demande plutôt de les voir lucidement. Cette lucidité retire à l'individu le confort de se croire spontanément juste parce que ses motifs lui paraissent nobles. La pesanteur constitue donc un diagnostic exigeant de la condition humaine, le bien ne résulte pas naturellement de nos impulsions. Il requiert une interruption des automatismes par laquelle le sujet renonce, au moins momentanément, à se placer au centre de toute chose. Deuxièmement, la grâce et le décréation du moi comme disponibilité au bien, la grâce occupe la position inverse de la pesanteur. Mais elle ne représente pas une récompense obtenue par effort moral. Dans ce recueil marqué par le christianisme mystique, elle correspond à une venue du bien qui échappe à la fabrication volontaire. L'obstacle majeur est le moi. Non parce que l'existence personnelle serait mauvaise, mais parce que le désir de se maintenir, de s'affirmer et de posséder déforme la relation aux autres et à Dieu. Weil emploie l'idée de décréation pour désigner un consentement à ne pas faire de soi la mesure du réel. Il ne s'agit donc ni de mépriser les personnes, ni de cultiver une passivité sociale. Il s'agit de desserrer l'appropriation imaginaire qui transforme autrui, les idées et même la foi en objet de confirmation personnelle. Cette discipline comporte une difficulté centrale, vouloir être humble ou pur peut encore devenir une manière de se glorifier. La grâce ne se confond dès lors avec aucune performance ascétique. Elle suppose l'attente, le vide et l'acceptation des limites. Cette pensée distingue Weil de nombreuses morales de la maîtrise de soi. Son idéal n'est pas un sujet plus souverain, mais une disponibilité assez impersonnelle pour que justice, vérité et compassion puissent être reçues plutôt que revendiquées. Troisièmement, l'attention comme méthode de connaissance et d'obligation envers autrui, l'attention est l'un des concepts les plus concrets de l'apaisanteur et la grâce. Elle ne désigne pas seulement la concentration intellectuelle, mais une manière de regarder, sans précipiter le réel, dans des catégories utiles au moi. Être attentif consiste à suspendre l'empressement à juger, à expliquer ou à intervenir afin de laisser apparaître ce qui est effectivement là. Cette exigence concerne autant l'étude que la relation à une personne éprouvée. Face au malheur d'autrui, les réponses rapides, les consolations convenues ou le désir de se sentir charitable risquent de manquer la réalité de la souffrance. L'attention impose de reconnaître une vulnérabilité sans la réduire à une leçon, à un dossier ou à une occasion de se valoriser. Weil lit ainsi connaissance et éthique, voire justement est déjà une forme de justice, car l'injustice commence souvent par une perception faussée par l'intérêt, le mépris ou l'abstraction. Cette conception explique aussi sa réserve devant les grands discours collectifs. Une cause peut être légitime tout en aveuglant ceux qui la servent si elle les dispense de regarder les individus concrets. L'attention ne garantit pas une solution immédiate aux problèmes sociaux ou spirituels. Elle fournit toutefois une condition de départ rigoureuse, ne pas substituer ses besoins psychologiques à la vérité de ce que vit ou de ce qu'est l'autre. Quatrièmement, le malheur. La force et la critique des consolations imaginaires, Weil distingue implicitement la souffrance ordinaire du malheur. Expérience où la douleur physique ou morale se combine à la déchéance sociale, à l'isolement et à l'impression d'être frappé par une nécessité aveugle. Une telle épreuve peut détruire les ressources mêmes qui permettraient de lui donner un sens. Cette analyse interdit de présenter la souffrance comme automatiquement formatrice, rédemptrice ou moralement méritoire. Le malheur est aussi une réalité politique, car la force transforme facilement les personnes en choses, les privant de parole, de sécurité et de considération. La réflexion religieuse de Weil est ici sans confort facile. Elle cherche comment consentir au réel sans justifier l'injustice, et comment aimer un monde où la nécessité frappe indifféremment. Sa réponse passe par le refus des compensations imaginaires. Rêver de puissance, de revanche ou de reconnaissance peut soulager provisoirement, mais entretient la dépendance envers ce qui blesse. L'attention au malheur exige au contraire de ne pas détourner le regard. Cette position peut paraître austère, surtout lorsque Weil insiste sur le vide et le renoncement. Sa force critique réside précisément dans son refus d'exploiter la souffrance au profit d'une morale édifiante. Elle oblige le lecteur à distinguer solidarité réelle, pitié abstraite et fascination pour le sacrifice. En dernier lieu, le désir sans objet, le vide et la beauté comme voie de dépassement, le recueil propose une analyse singulière du désir. Weil ne recommande pas de l'étouffer par simple discipline, car le désir témoigne d'une orientation humaine vers un bien qui ne se laisse pas réduire aux possessions disponibles. Le problème apparaît lorsque l'on cherche à remplir immédiatement le vide intérieur par des substituts domination, consommation, distraction, attachement exclusif ou adhésion idéologique. Ces satisfactions peuvent être réelles à leur niveau, mais elles deviennent trompeuses lorsqu'elles prétendent combler un manque absolu. Désirer sans objet signifie alors préserver l'élan sans le rabattre trop vite sur une chose finie. Cette attente n'est pas une vacuité stérile. Elle prépare une disponibilité à la grâce. La beauté joue un rôle voisin. Dans l'expérience esthétique, le monde peut être contemplé sans être possédé. Le beau arrête pour un instant la volonté d'appropriation et apprend à recevoir une présence. Weil ne transforme pas pour autant l'art ou la nature en refuge hors du monde. La beauté importe parce qu'elle exerce l'attention et le consentement à une réalité extérieure. Ce lien entre vide, désir et contemplation donne au livre une portée psychologique durable. Il propose de comprendre certaines conduites de remplissage non comme de simples caprices, mais comme des réponses inadéquates à une aspiration plus profonde, qui doit être reconnue sans être immédiatement satisfaite. En conclusion, la pesanteur et la grâce convient au lecteur disposé à une lecture lente de la philosophie morale et de la spiritualité. Il intéressera particulièrement ceux qui veulent interroger les rapports entre violence, désir, souffrance, attention et vie religieuse, sans rechercher un exposé linéaire ni des réponses immédiatement applicables. Les fragments de Weil peuvent aussi nourrir une réflexion sur les habitudes contemporaines de distraction, de valorisation de soi et de réduction d'autrui à une fonction sociale ou idéologique. Son bénéfice intellectuel tient moins à un système clos qu'à la précision de ses oppositions nécessité et grâce, force et justice, imagination et réalité, possession et attente. Elle donne au lecteur des instruments pour examiner ses propres réactions sans les psychologiser hâtivement. Le livre se distingue des essais spirituels consolateurs par son refus de promettre une paix obtenue par la volonté, l'optimisme ou la seule adhésion à une doctrine. Il se distingue également des recueils d'aphorismes par la cohérence profonde de ses thèmes, malgré sa forme discontinue. Cette forme exigeante a une limite réelle, l'agencement posthume par Gustave Thibon ne remplace pas un ouvrage composé intégralement par Weil elle-même. Et certains fragments demandent à être situés dans l'ensemble de son œuvre. Mais cette tension fait aussi sa singularité. Le texte conserve la force d'un laboratoire de pensée où l'expérience spirituelle demeure inséparable d'une critique radicale du moi et de l'injustice. Si vous souhaitez soutenir Simone Weil, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.